L'impitoyable piège refermé sur les migrants bloqués en Libye ce matin, le bilan du bombardement d'un centre de détention mercredi dernier s'est encore alourdi, passant à 53 morts. Pouvoir et contestation à l'épreuve aujourd'hui en Algérie à l'occasion d'un 20e vendredi consécutif de manifestations. Soulagés, euphoriques ou déçus depuis ce matin, les 743 000 candidats au baccalauréat découvrent leurs résultats, des résultats encore provisoires pour certains, en raison de la grève inédite des correcteurs opposés à la refonte de l'examen. Puis à 12h45, Maëlys, ce sera la grande table.
Et oui, nous allons parler de drôles de petites bêtes avec l'exposition du musée des arts décoratifs et l'auteur jeunesse Anton Krings. Puis nous ferons le portrait de la circassienne et chorégraphe Raphaël Boitel.
Merci et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Dans l'immensité de la mer, un point minuscule est ballotté avec violence. Dans cette vidéo publiée il y a quelques semaines par l'ONG Sea-Watch, un migrant qui tentait de quitter la Libye dans une embarcation de fortune préférait risquer sa vie en plongeant en haute mer, en voyant arriver les gardes-côtes libyens pour nager vers un navire commercial. Cette vidéo, comme tant d'autres images insoutenables, illustre le désespoir aussi criant qu'assourdissant de ces hommes, femmes et enfants en grande majorité originaire d'Afrique et qui quasi quotidiennement sont prêts à tout pour ne pas être à nouveau enfermés arbitrairement dans un centre de détention. Hier soir encore, plus de 80 migrants étaient portés disparus et présumés morts en mer après le naufrage de leur embarcation au large des côtes tunisiennes. L'embarcation était partie de Libye à destination de l'Europe. L'occasion aussi de rappeler que la catastrophe, près de 600 naufragés ont déjà péri ces 6 derniers mois, ne se situe pas seulement en Méditerranée, mais également sur le sol libyen. Car lorsque tous ces infortunés parviennent jusqu'aux côtes libyennes, ils ont déjà vécu l'enfer. Hier, les Nations Unies ont notamment fait état d'informations selon lesquelles des gardes libyens ont ouvert le feu sur des migrants qui tentaient de fuir le camp de détention de Tadjoura dans les faubourgs de Tripoli, au moment même où celui-ci était bombardé. Une frappe aérienne qui a fait au total 53 morts. Les explications de Marwaman.
Selon l'OCHA, le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies, non seulement les gardiens de ce camp de rétention de Tadjoura dans les faubourgs de Tripoli n'ont pas aidé les migrants blessés par le bombardement, mais ils auraient surtout ouvert le feu sur ceux qui tentaient de s'échapper des lieux du drame. D'après des témoins cités par l'agence onusienne, certains migrants blessés sont décédés peu après sur la route pendant qu'ils s'enfuyaient. Des informations catégoriquement démenti à Tripoli par le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale qui envisagerait la fermeture de la totalité des centres de rétention en Libye où s'entassent près de 6000 migrants dans des conditions inhumaines. Selon l'OIM, l'Office international pour les migrants, près de 300 réfugiés seraient encore détenus dans ce hangar frappé mercredi, une zone régulièrement visée par l'aviation de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui tente depuis le 4 avril dernier de conquérir la capitale Tripoli.
Alors avec cette crise migratoire, nombreuses sont les ONG à considérer aujourd'hui que l'Union européenne est en train de perdre son âme, non seulement parce qu'elle travaille main dans la main avec la Libye et ses centres de détention inhumains, mais aussi du fait de la dureté de sa politique aux frontières. La nuit dernière, après avoir secouru un peu plus tôt 54 migrants dans les eaux internationales au large de la Libye, le voilier Alex est arrivé à la limite des eaux territoriales italiennes. Depuis, il insiste pour les débarquer sur l'île de Lampedusa, en dépit du veto de Matteo Salvini. Ça suffit, a encore tonné ce matin à la radio le ministre de l'Intérieur d'extrême droite devant ce qu'il considère comme le énième acte de désobéissance, de violence et de piraterie. Et puis, un autre navire, le Alan Kurdi, appartenant à une ONG allemande, a lui secouru ce matin 65 migrants au large, là encore, de la Libye et attend désormais de Malte, Rome et Tripoli une réponse pour leur prise en charge. Téhéran a expressément demandé à Londres ce matin la libération immédiate de son pétrolier arraisonné au large de Gibraltar. Le navire est soupçonné d'avoir voulu livrer du pétrole à la Syrie en violation des sanctions contre Damas. L'interception de ce pétrolier intervient quelques jours seulement après l'annonce du dépassement par l'Iran de la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichi. Le tout sur fond de tensions exacerbées entre la République islamique et les États-Unis qui font craindre un embrasement dans la région du Golfe. Au Soudan, après des semaines d'un bras de fer politique, les chefs de la contestation et les généraux à la tête du pays depuis la chute d'Omar El-Béchir seraient enfin parvenus parvenu à un accord sur un partage du pouvoir. Durant une période de transition devant mener à des élections nationales, les deux camps sont convenus d'établir un conseil de souveraineté dirigé en alternance par l'armée et les civils. Et puis militaires et oppositions se sont par ailleurs entendus sur la formation d'un gouvernement technocrate indépendant, de même que le lancement d'une enquête indépendante et transparente sur les violences qui ont émaillé les récentes manifestations. Là-bas, en revanche, la société civile cherche toujours à faire barrage à la contre-révolution. L'Algérie se prépare à un 20e vendredi consécutif de manifestations appelées à être massives. Une nouvelle journée test donc à la fois pour la contestation et le pouvoir, deux jours après une proposition du président par intérim pour sortir le pays de la crise. Cette journée intervient par ailleurs au lendemain de la date initialement prévue pour la présidentielle, annulée depuis faute de candidats. Enfin, ce vendredi sera décidément symbolique à plus d'un titre puisqu'il coïncide également avec le 57e anniversaire de l'indépendance du pays. Je vous propose d'écouter Raled Drareni, journaliste algérien indépendant, joué au téléphone par Capucine Jaffé.
On s'attend à des millions de personnes aujourd'hui dans les rues d'Alger et des grandes villes du pays pour dénoncer déjà la présence de ce système qui n'en fait qu'à sa tête, qui refuse une période de transition comme le demandent les Algériens. Et donc on va voir ce qui va se passer après, comment va réagir le chef d'état-major de l'armée. Il y avait déjà des appels à manifester en masse depuis plusieurs semaines pour marquer le coup et pour faire entendre la voix du peuple au système qui fait toujours la sourde oreille. L'espoir n'a jamais disparu, malgré les mauvaises nouvelles qui viennent du côté d'Em, malgré l'entêtement des décideurs actuels du pays à ne pas vouloir entendre le peuple. L'espoir est toujours là et on voit l'espoir chaque vendredi dans cette mobilisation exceptionnelle des Algériens. Chaque vendredi, malgré le ramadan, malgré les vacances et bien qui débutent, il y a toujours un espoir et les Algériens refusent d'hypothéquer cet espoir.
Raled Drareni, journaliste algérien indépendant, joint au téléphone par Capucine Jaffé. Les premiers résultats du baccalauréat ont commencé à tomber ce matin pour les quelques 743 000 candidats, même si certains ne sont toujours que provisoires en raison de la grève des correcteurs opposée à la refonte de l'examen et auquel le ministre Jean-Michel Blanquer n'a pas voulu céder. Alors au final, il semble que 30 000 copies n'auraient pas été rendues, un chiffre bien inférieur donc aux 137 000 revendiqués mercredi soir par le collectif Blanquer, lequel doit d'ailleurs se réunir à nouveau aujourd'hui pour décider de la suite du mouvement. Théo Conscience, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors dans chaque centre de délibération, les candidats pourront voir afficher aujourd'hui en même temps que les résultats la liste donc de ceux qui auraient une note provisoire. Quoi qu'il en soit, le ministre a lui une nouvelle fois assuré ce matin que tous les candidats auraient bien leurs résultats. Alors par quel tour de passe-passe? Parce que les notes manquantes ont été provisoirement remplacées par celles du contrôle continu, une solution Théo dénoncée comme inégalitaire par les syndicats.
Entre 35 et 40 000 candidats sont concernés. Quand leur note à l'examen terminal sera connue, seule la meilleure des deux sera conservée. Pour le ministère, c'est le gage d'une solution équitable. Jean-Marc Huard, directeur général de l'enseignement scolaire.
Le résultat provisoire, il est, je dirais, quasi définitif. Les professeurs vont, nous l'espérons, nous les avons mis en demeure de le faire, rendre leur copie aujourd'hui. La copie sera corrigée. En règle générale, nous aurons une substitution de notes à la note provisoire qui permettra véritablement de confirmer pleinement les résultats des candidats.
Une solution inégalitaire, répond le SNES par la voix de sa secrétaire générale Frédéric Rollet, car elle avantage les candidats dont les copies ont été retenues par les grévistes.
Un de leurs camarades qui, lui, le jury disposait de toutes les notes et donc pouvait délibérer. Donc là, c'est sa note terminale qui a été prise en compte. Et lui, par exemple, avait une meilleure note au contrôle continu pendant l'année. Il pourra dire, moi, j'étais discriminé, puisque pour moi, on a pris la note du contrôle terminal, alors que pour mon camarade, on a pris la meilleure des deux notes.
D'autant plus inégalitaire que certaines notes auraient même été inventées, une information reprise par le SNES ce matin. Cela aurait eu lieu dans certaines académies où le jury a refusé d'appliquer les consignes du ministère, d'utiliser la note de contrôle continu. Jean-Michel Blanquer, lui, parle de fausses informations et assure que toutes les notes données l'ont été sur des bases sérieuses.
Merci Théo Conscience. D'une réforme à une autre, après celle des lycées et du bac, celle de l'assurance chômage. 1 200 000 chômeurs pourraient être affectés par les nouvelles mesures voulues par le gouvernement. Comprenez, voir leurs droits à indemnisation réduits. C'est du moins ce qui ressort d'un document de travail de l'UNEDIC dont un extrait a été révélé hier. Et c'est surtout pratiquement le double des chiffres avancés par le ministère du Travail qui avait évoqué un ordre de grandeur de 600 000 à 700 000 personnes. France Télécom et ses ex-dirigeants qui voulaient supprimer des milliers d'emplois ont-ils mis en place une politique visant à déstabiliser les salariés? Depuis le 6 mai dernier, premier jour du procès, le tribunal s'est plongé dans l'organisation de l'entreprise rebaptisée Orange en 2013 et devenue avec le suicide de plusieurs de ses salariés le symbole de la souffrance au travail. Les deux procureurs présenteront cet après-midi leur réquisition dans ce procès inédit pour harcèlement moral. Confronté à une concurrence exacerbée qu'une refonte de ses offres commerciales n'a pas suffi à enrayer, mais aussi à une érosion du nombre de ses abonnés directs sur son marché historique hexagonal, le groupe de télévision payante Canal+, filiale de Vivendi, s'apprête à tailler dans ses effectifs en France avec un plan de départ volontaire portant sur au moins 500 postes, soit près de 20% de ses effectifs hexagonaux. La chasse aux maires socialistes est ouverte dans la perspective des prochaines municipales, c'est du moins ce que laisse entendre noir sur blanc une note en tête de l'Assemblée nationale datée du 21 juin dernier, rédigée par le directeur de cabinet de Richard Ferrand, le président du Palais Bourbon, membre du parti présidentiel. Alors révélé hier par Le Point, ce courrier a aussitôt suscité l'ire du premier secrétaire du PS, Olivier Faure, lequel a d'ailleurs ensuite lui-même publié des photos de la dite note sur les réseaux sociaux, tout en indiquant qu'il envisageait de porter plainte. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Le patron du PS dénonce un scandale et en premier lieu un détournement de fonds publics. Pour quelle raison, Stéphane?
Oui, selon Olivier Faure, il y aurait dans cette affaire des similitudes avec l'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement National. Puisque, dit-il, l'auteur de cette note, Jean-Marie Girier, actuel directeur de cabinet du président de l'Assemblée, Richard Ferrand, serait employé à faire autre chose que ce pour quoi il est payé, en l'occurrence à élaborer des stratégies politiques. Mais au-delà de cette polémique qu'essaie de soulever Olivier Faure, ce qui apparaît tout aussi intéressant, c'est la stratégie en elle-même élaborée par Jean-Marie Girier. C'est l'un des cerveaux de la Macronie. Il était autrefois conseiller spécial de Gérard Collomb à Lyon, débauché par Emmanuel Macron pour piloter sa campagne présidentielle en 2017 et depuis mis au service de Richard Ferrand au Palais Bourbon. Cette note, qu'il a rédigée sur un papier à en tête de l'Assemblée, aurait dû rester secrète. Et elle confirme qu'il y a bel et bien un plan pour constituer un pôle de gauche en vue des élections municipales, à l'image de ce qui s'est fait à droite avec Agir, le parti du ministre de la Culture, Franck Riester. La différence est qu'il recommande de ne pas créer un autre parti politique de gauche, celui-là. Ce ne serait pas adapté aux attentes, explique-t-il, pas plus qu'il ne conviendrait de demander aux élus de quitter le PS. Il s'agit plutôt de créer une sorte de courant au sein du Parti Socialiste, de maires bienveillants vis-à-vis du président de la République, et il donne un calendrier très précis avec différentes étapes à respecter. Avec en ligne de mire au mois de septembre une vague d'investitures par La République En Marche d'un certain nombre de maires socialistes, le but étant de constituer un maillage territorial précieux en vue des élections sénatoriales de 2021, conclut la note. On voit là que la politique est plus que jamais un domaine où s'exercent des jeux de pouvoir, où l'on parle explicitement de chasser les maires socialistes, qu'il y a des stratèges au service d'un grand prédateur de la politique, le président de la République, et que ce qu'on présente comme le nouveau monde ressemble furieusement à l'ancien.
Merci Stéphane Robert. La prime à la conversion portait bien son nom et pourtant il semble que tous n'aient pas bien saisi le principe de ce dispositif censé ouvrir la possibilité aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule neuf de se débarrasser de leur vieille voiture en s'en procurant une autre d'occasion et surtout moins polluante. Sauf que le nombre exponentiel de bénéficiaires de cette prime, l'État table aujourd'hui sur 2 millions d'automobilistes d'ici à 2022 au lieu de 500 000, laisse supposer d'une part que des failles existent dans les conditions d'attribution de cette aide et d'autre part que cela risque de coûter cher, très cher à l'État, 1 milliard d'euros. Voilà pourquoi Bercy chercherait donc à présent à réduire la facture en établissant des critères plus restrictifs. Devront notamment être exclus les voitures trop chères mais aussi celles trop polluantes. C'était du moins le sens de l'intervention ce matin chez nos confrères de France Info de la ministre des Transports Elisabeth Borne.
Cette prime, elle a un grand succès, mais il y a un certain nombre d'utilisations qui sont pas dans l'esprit de ce qu'on avait voulu. Par exemple, vous avez vu qu'il y a quelques dizaines de Français qui ont acheté des véhicules à plus de 50 000 euros. Cette prime, elle est pas faite pour acheter des Tesla. Non. Donc, on va regarder comment on peut éviter ce genre d'utilisation qui est pas dans l'esprit de la prime. Cette prime,
donc,
elle doit
mettre
permettre...
à des conditions de ressources?
Ou ne pas permettre d'acheter un véhicule à 50 000 euros. Je pense que c'est pas utile de mettre de l'argent du contribuable pour aider quelqu'un à acheter un véhicule à 50 000 euros. Et puis, effectivement, il faut s'assurer qu'on achète des véhicules qui sont vraiment propres. Donc, on va aussi regarder ces critères. Il y a une part significative de véhicules diesel, et y compris de diesel pas très récents. Et donc, il faut qu'on s'assure qu'on atteint bien la cible, c'est-à-dire des véhicules vraiment plus propres.
Alors, agir efficacement sur les véhicules anciens les plus polluants doit permettre à terme de diminuer en partie les dangers liés à la qualité de l'air dans les villes, devenu un réel problème de santé publique à ce titre. D'ailleurs, le tribunal administratif de Paris a reconnu hier une responsabilité de l'État dans l'insuffisance des mesures prises pour faire face au pic de pollution atmosphérique en Île-de-France. Il y a quelques jours déjà, le tribunal administratif de Montreuil avait également pointé une faute de l'État de nature, là encore, à engager sa responsabilité. On termine avec un mot de météo et un temps plutôt mitigé sur la façade ouest du pays où les entrées maritimes apporteront humidité et nuages, soleil radieux en revanche sur le reste du territoire. Quant aux températures, elles afficheront cet après-midi entre 22 et 40 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par François-Charles Demergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.